Bonsoir à tous. Pour lutter contre la propagation du coronavirus en France, un accueil médicalisé sera mis en place demain à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à l'arrivée des vols directs en provenance de Chine. Risque très faible d'épidémie en France ou en Europe, c'est ce que dit le chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Nous l'entendrons. En Chine, le président Xi Jinping reconnaît que la situation est grave. L'épidémie s'accélère, dit-il. À Hong Kong, alerte sanitaire maximale. Nous serons sur place. Après l'avis du Conseil d'État sévère sur la réforme des retraites, satisfaction des opposants à la réforme sur le thème « La juridiction administrative nous donne raison ». En Italie, élection régionale demain en Émilie-Romagne, bastion de la gauche, talonné par la droite selon les sondages. Le mouvement antifasciste des Sardines mobilisé pour empêcher une victoire de la Ligue de Matteo Salvini. Reportage à Bologne avec Bruce de Galzin. Le tennis, l'Open d'Australie chez les dames pour la première fois en huitième de finale. Une joueuse venue du Maghreb, la Tunisienne Hans Jaber. Elle a 25 ans. Fabrice Abgral l'a rencontrée. Et puis la vie connectée avec Christine Siméon, comme chaque samedi. L'univers de la fantasy sur un site de la Bibliothèque nationale de France.
France Inter.
Comment éviter en France une possible propagation de l'infection au coronavirus après l'identification à Paris et Bordeaux de 3 cas sur des voyageurs récemment rentrés de Chine? Les 3 patients ont été hospitalisés en isolement. Ils vont très bien, disent leurs médecins. Il faut traiter une épidémie comme on traite un incendie. Très vite repérer la source et le circonscrire le plus vite possible. C'est ce que dit Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Il s'agit notamment d'identifier les personnes ayant été en contact étroit avec les malades pour assurer une surveillance sanitaire et éviter une propagation. Le ministère de la Santé rappelle pour les personnes qui auraient séjourné en Chine récemment les précautions à prendre en cas de symptômes, fièvre et toux, ou alors difficultés respiratoires. Contacter le SAMU, le 15, ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences pour éviter toute potentielle contamination. Le professeur Yazdan Pana, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, où 2 patients sont hospitalisés, explique à Hélène Chevalier que la situation est tout à fait sous contrôle. Il ne croit pas à une épidémie de grande ampleur.
Je pense qu'il ne faut pas céder à la panique du tout. On a justement un dispositif qui marche, qui permet de détecter vraiment rapidement les patients, de les isoler et faire le diagnostic. On l'a dit les jours précédents, il y a un travail modélisation qui a été fait, qui montre qu'il va y avoir des cas. Par contre, la probabilité d'une épidémie en France ou en Europe est extrêmement faible. C'est vraiment faible, parce que justement, on a un dispositif pour contrôler l'épidémie. Le taux de mortalité de cette maladie, pour l'instant, c'est moins de 5% sur ce qu'on connaît. Mais on ne connaît pas bien le dénominateur. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a plus de 500, 600 cas et qu'il y a tant de décès. Donc, le taux de décès, par exemple, si on compare au SARS, qui était de l'ordre de 10%, ça a l'air moins important. Par rapport à la grippe, c'est probablement un peu plus important quand même.
Voilà le professeur Yazdan Pana, qui est le chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Un accueil médicalisé sera mis en place à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle demain à l'arrivée des vols directs depuis la Chine. Les passagers qui ont des doutes sur leur état de santé ou qui présentent des symptômes pourront être examinés. Le président chinois de son côté, Xi Jinping, constate que la Chine fait face, dit-il, à une situation grave qui s'accélère car l'épidémie a contaminé environ 1300 personnes et fait 41 morts. À partir de lundi, les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de séjours à des groupes. Des médecins militaires ont été envoyés à Wuhan, la ville du centre de la Chine où est apparu en décembre le virus. La construction d'un 2e hôpital d'urgence a été lancée. Cette ville d'Wuhan et la province de Hubei sont en quarantaine. 56 millions de personnes coupées du monde. À Hong Kong, c'est aussi l'alerte sanitaire maximale. École fermée, marathon annulé. Reportage sur place. Florence de Changi.
En une journée à peine, les Hongkongais ont repris leurs vieilles habitudes d'hygiène en période d'épidémie. Samedi, 95% des usagers du métro portaient un masque sans même que le gouvernement ne les suggérait. À Central, Janus Lung, 34 ans, et Amy Pang, 25 ans, se disent inquiets.
Oui, franchement, on est extrêmement inquiets de la situation. N'importe qui peut entrer, qu'il soit ou non en bonne santé, en remplissant une simple fiche. Et vous savez, le nouveau coronavirus, vous pouvez être porteur, même sans fièvre. Donc c'est vraiment terrible.
Ils viennent d'entendre que le gouvernement avait déclaré le niveau d'alerte maximale.
Pour moi, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas assez.
Quelle autre mesure souhaiteriez-vous ?
Seal the gate. Fermez les frontières. au moins fermer les portes aux touristes chinois. Apparemment, beaucoup de Chinois sont venus à Hong Kong pour se faire soigner. Et ils ne portent même pas de masque. Leur sensibilité à l'hygiène n'est vraiment pas la même que nous.
L'idée de fermer momentanément Hong Kong a d'ailleurs été endossée par certains scientifiques, mais le gouvernement, pour le moment, exclut totalement cette mesure. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Et en Chine, à Wuhan, le foyer du virus, des autobus sont mis en place par le consulat général de France pour que les Français bloqués dans la ville puissent partir. L'opération est en préparation. Jackie Rimbaud, résident français à Wuhan, est directeur en Chine d'une filiale d'une entreprise du sud de la Sarthe. Le consulat français lui a proposé de partir, mais il est très méfiant. Il l'a dit à Jules de Kiss sur France Info.
Les informations qu'on a eues officielles par le biais du consulat français à Wuhan, ça date de la nuit dernière, hein, donc il était 1h du matin local ici en Chine. On nous a fait une proposition pour nous transférer de la ville de Wuhan vers la ville de Changsha. Changsha, c'est la ville capitale de la province qui est au sud du Roubaix, hein, à quelques 300 kilomètres. D'ici, hein, de Wuhan, mais une proposition qui semble pas sérieuse. Il faut qu'on trouve nous-mêmes un hôtel pour nous loger, il faut qu'on va être mis en quarantaine, on sait pas combien de temps, et puis on sait pas ce qu'on va faire une fois rendu là-bas. En ce qui nous concerne, avec mon épouse, on préfère rester ici, parce que la proposition paraît pas sérieuse et pas préparée.
Ce soir, PSA annonce qu'il va rapatrier ses salariés et leurs familles dans la région de Wuhan. La mesure concerne 38 personnes. Cette initiative est en cours de mise en œuvre en totale coordination avec les autorités chinoises et le consulat général de France. C'est ce qu'affirme le constructeur automobile PSA. Sur franceinter.fr, ce soir, cette question que vous vous posez sûrement sur le coronavirus chinois, franceinter.fr. Retour en France, la plus haute juridiction administrative française, c'est le Conseil d'État. Il a émis hier un avis sévère sur les deux projets de loi qui réforment les retraites, le jour même où ces textes étaient adoptés en Conseil des ministres. Le Conseil d'État critique le choix de recourir à 29 ordonnances, ce qui fait perdre la visibilité d'ensemble. Il pointe des projections financières lacunaires. Il déplore n'avoir disposé que de 3 semaines pour rendre son avis sur ces deux textes modifiés à 6 reprises durant cette période. Laurence Perron, bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment, le Conseil d'État offre là des arguments aux opposants à la réforme.
Oui, d'autant que vous avez oublié aussi les critiques du Conseil d'État concernant les conditions d'élaboration du texte. Le Conseil d'État dit que c'est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'une réforme inédite depuis 1945. Il conteste aussi le caractère véritablement universel du régime créé et va même jusqu'à écrire que le projet de loi intervient dans un contexte de relative solidité du système des retraites actuel. Réaction de Boris Vallaud, le porte-parole du Parti Socialiste.
Ce gouvernement stupéfiant d'amateurisme et de cynisme.
Le député des Landes qui en appelle au patron de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.
On ne peut pas examiner cette loi. Elle doit être retirée. Le dialogue social a déjà été escamoté. Et nous, on nous soumet un texte qui n'est pas achevé, qui ne nous permet pas de prendre la mesure d'une réforme qui va engager des générations sur 60 ans. Mais qui peut se rendre complice de ça ?
Tous les parlementaires de gauche sont actuellement en discussion pour décider d'une action commune, alors que l'examen du texte commence mardi à l'Assemblée nationale. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise.
Je continue de penser que la motion de censure est une possibilité. Je pense qu'il y a d'autres recours possibles et c'est maintenant la discussion que nous allons avoir dans les heures et les jours qui viennent pour avancer au plus vite face à ce gouvernement qui vraiment s'entête, un peu d'ailleurs un canard sans tête, hein, qui avance et qui signe une incompétence et un entêtement dogmatique d'un niveau particulièrement élevé.
L'opposition de gauche qui espère rallier aussi dans l'hémicycle la droite sur ce procès en incompétence.
Laurence Perron, le Conseil national des barreaux a voté à l'unanimité la poursuite du mouvement de grève des avocats contre la réforme des retraites lors d'une assemblée générale. Aujourd'hui, le Conseil national des barreaux, qui représente les 70 000 avocats français, déplore n'avoir eu aucune nouvelle proposition lors de sa rencontre jeudi soir avec le Premier ministre Édouard Philippe et souligne qu'un élément qui change la donne, c'est justement cet avis sévère, critique, rendu par le Conseil d'État sur la réforme des retraites. À l'étranger, en Italie, élection régionale régionale demain en Calabre et en Émilie-Romagne. L'Émilie-Romagne, riche région du nord du pays, a toujours été un bastion de la gauche italienne. Les derniers sondages donnaient la gauche et la droite extrême de la Ligue au coude à coude. Le tout jeune mouvement antifasciste des Sardines est mobilisé pour empêcher une victoire de la droite. Les Sardines vont-elles permettre à la gauche de garder cette région ? Reportage à Bologne, Bruce de Galzin.
Nous sommes dans l'atelier de fabrication des sardines qui ont fleuri sur toutes les places d'Italie. Mamadou Camara est ivoirien, couturier. Il a fondé cette association il y a 3 ans avec des Italiens. Depuis 2 mois, depuis que les sardines existent, Mamadou se sent mieux dans sa ville.
Ça a beaucoup changé, rapport les Bolognaises et les Africains. Parce qu'avant, quand ils rentrent dans nos villes, ils voyaient, ça faisait un peu peur, mais actuellement, tout le monde ensemble.
Mamadou veut croire que la région restera à gauche, tout comme Eduardo Caroli, 26 ans, porte-parole des sardines.
Le 13 novembre, la veille du premier rendez-vous des sardines à Bologne, la région était entre guillemets condamnée et basculée à droite. Et c'est grâce aux sardines qu'on s'est regardé en face et qu'on s'est dit, si nous ne faisons rien, personne ne fera rien à notre place. Maintenant, le plus grand objectif des sardines, c'est qu'il y ait une forte participation aux élections.
Sauf que Riccardo Brizzi de l'Université de Bologne ne croit pas à un vote massif des sardines.
Ce qui est à évaluer, c'est son poids électoral, ce qui est beaucoup plus discutable. Il y a une ancienne expression en Italie qu'on dit « si les places sont pleines, les urnes risquent d'être vides ».
Et même si les sardines votent plutôt à gauche, elles n'ont pas toutes la même sensibilité politique. À Bologne, Bruce de Galzin, France Inter.
Le procès en destitution de Donald Trump à Washington après le méticuleux réquisitoire des démocrates en faveur d'une destitution. Les avocats de Donald Trump ont entamé aujourd'hui leur plaidoirie, mettant en garde contre la tentation de remettre en cause le verdict des urnes, disent-ils, sans la moindre preuve. Quand vous entendrez les faits, vous verrez que le président n'a absolument rien fait de mal. C'est ce qu'a dit d'entrée aujourd'hui Pat Cipollone, avocat de la Maison-Blanche qui a pris la parole devant le Congrès. Au moins 22 morts et plus d'un millier de blessés, c'est le bilan officiel mais provisoire d'un violent séisme de magnitude 6,8 qui a secoué l'est de la Turquie hier soir, provoquant l'effondrement de bâtiments dans plusieurs villes des provinces d'Elazeu et de Malatya. Des secouristes continuent en ce moment de chercher des survivants dans les bâtiments effondrés. Les sports, le tennis débute demain à Melbourne en Australie, des huitièmes de finale de l'Open d'Australie, en vedette Novak Djokovic et Roger Federer. Djokovic, le tenant du titre, sera opposé à l'Argentin Diego Schwartzmann. Quant à Roger Federer, en soirée, il rencontrera le Hongrois Marton Fucsovics, 67e joueur mondial. Chez les dames, l'attraction du jour, ce sera la présence de la Tunisienne Ons Jabeur. Elle sera opposée à Qiang Wang, vainqueur de Serena Williams au tour précédent. Ons Jabeur est la première joueuse venue du Maghreb qualifiée pour les huitièmes de finale en Grand Chelem. Son portrait avec notre envoyé spécial à Melbourne, Fabrice Abgral.
Ons Jabeur est née dans la région de Monastir il y a 25 ans. Elle a commencé le tennis à 3 ans dans un pays où ce sport ne représentait rien ou pas grand-chose. Mais elle était douée, alors elle a persévéré. Et en 2011, c'est le triomphe. Ons Jabeur, âgée alors de 16 ans, remporte Roland Garros Junior. Ce succès a eu un retentissement inattendu.
Les nombres de jeunes qu'ils ont inscrits dans mon club et dans d'autres clubs, il a augmenté dans genre x10, x5. Et je savais que c'était un truc énorme.
Et d'un seul coup, Ons Jabeur est devenue une star en Tunisie.
Quand je vois les enfants et tout, comment ils se jettent sur moi et tout, donc déjà c'est un truc énorme. Donc pour moi j'ai une responsabilité de montrer le bon exemple ici ou dans d'autres pays.
Un modèle et une référence, Ons Jabeur est devenue tout ça, mais aussi un symbole, celui de la réussite des musulmanes dans le sport. En novembre, Ons Jabeur a reçu à Londres le prix de la meilleure athlète arabe de l'année.
Toute la Tunisie est derrière moi, tout le monde arabe est derrière moi. C'est un truc énorme, donc je dois prendre ma responsabilité. Je suis en train de bien jouer et de donner l'exemple et j'espère que ça peut envoyer un très beau message.
Ons Jabeur est fier de son parcours mais se garde bien de faire de la politique. Son terrain d'expression, c'est le court de tennis, là où elle s'épanouit sans se soucier des préjugés. Melbourne, Fabrice Abgral, France Inter.
Le ski en Autriche, l'Autrichien Matthias Mayer a triomphé dans la descente de Coupe du Monde de Kitzbühel pour la première fois de sa carrière. Il devance de 22 centièmes deux coureurs ex aequo, son compatriote Vincent Krichmeier et le favori suisse Beat Feuss. Le français Jean Claret est quatrième. Et si on parlait télévision, c'est une initiative de la télévision assez surprenante et qui s'apparente à la radio. Après Canal+, en 2017 avec sa série Calls, voici Mort à l'aveugle sur TCM, un western dont on entend que les bruits et les dialogues. Ce samedi soir, à 23h50, le téléspectateur fixera un écran quasi statique pour vivre cette aventure au rythme des intonations des comédiens. La télé sans images, uniquement dans les oreilles. Une idée originale, Jacqueline Pétroz, et un peu incongrue.
On peut s'interroger sur le concept. En 2017, Canal+, pour sa série Calls, faisait juste apparaître les dialogues sur fond noir. Ici, les images sont des plans fixes, avec effets de lumière et de couleur pour mettre les téléspectateurs dans l'ambiance.
Hé, hey, toi ! Ouais, toi, là, devant ton écran ! C'est à toi que je cause ! Arrête de fixer cet écran ! Regarde autour de toi ! Regarde comment l'ambiance de cette ville s'infiltre jusque chez toi !
La production a misé évidemment sur les comédiens qui travaillent comme pour le doublage ou le feuilleton radiophonique. Morts à l'aveugle fait appel à des voix reconnaissables comme celle de Patrick Noëry et Hervé Joly qui doublent régulièrement George Clooney et Clint Eastwood, et pour les comédiennes, celle d'Alison Wheeler et de Louane. Alors quel est l'intérêt ? Laisser sa part à l'imaginaire, disent les producteurs. Tout en ne coûtant pas aussi cher qu'un film, peut-on ajouter. Du coup, c'est déroutant, sauf pour les auditeurs de radio.
Tu vas écouter et décrocher de ton écran. Car je te promets une chose, c'est qu'en regardant moi, tu verras mieux.
Voilà, suggéré par Jacqueline Pétroz ce soir, 23h50 sur TCM, ce western sans images, mort à l'aveugle. La vie connectée, comme tous les samedis dans le journal de 19h avec Christine Siméon, c'est maintenant. Et ce soir, Christine, avec vous, l'univers de la fantasy. Vous avez sillonné les multiples pages, illustrations, vidéos du site lancé par la Bibliothèque nationale de France. Et c'est tout un monde qui s'est ouvert à vous.
Retenez bien cette adresse, fantasy.bnf.fr. Je vous parle de ce site car c'est vraiment une référence en matière de ressources en ligne, de décryptage, d'illustration de ce genre qu'est la fantasy. C'est un site pour tous, les curieux, les érudits, les profs, les joueurs. Bienvenue au pays des romans de fantasy que sont Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, mais aussi dans le monde des séries télé, des comics, des jeux vidéo et des histoires plus anciennes, les récits médiévaux conservés à la Bibliothèque nationale de France.
Buffy ?
Qu'est-ce que c'était ? J'ai entendu quelque chose.
Voilà, Christine, de quoi se mettre dans l'ambiance avec un extrait de la série Buffy contre les vampires.
Oui, jusque-là, tout ça vous semble sûrement évident. Plus surprenant, en revanche, le site essaie de montrer aussi comment la fantasy épouse les valeurs de son temps au moment où elle s'écrit, ou bien les devance, en matière d'écologie par exemple, avec ce goût si prononcé pour les liens avec la nature. Ou bien en regardant la place qui tiennent les femmes. Écoutez Anne Besson, universitaire et spécialiste du genre.
Les représentations actuelles sont marquées par une certaine violence sur les femmes, mais aussi des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une très forte représentation de la femme guerrière, Buffy contre les vampires, c'est une petite blonde qui se promène dans un cimetière et on s'attend à ce que ce soit la victime traditionnelle des codes du fantastique. C'est-à-dire pas du tout, toute petite blonde mignonnette qu'elle soit, elle se retourne et elle file un coup de pied de karaté et un coup de pieu dans le cœur aux vampires. Et dans Game of Thrones, à côté des femmes victimes de violence, il y a aussi beaucoup de femmes qui deviennent capables d'exercer une violence comparable.
Si c'était un livre, ce site sur la fantasy tiendrait en 1200 pages. Là, c'est une navigation quasi infinie par laquelle on entre dans un esprit de sérendipidité et une navigation dans laquelle les enseignants trouveront aussi des parcours de découverte pour leurs élèves, les joueurs un jeu vidéo et les curieux 1000 pépites. Bientôt, bientôt, dans ce site, on vous dira aussi les influences de la fantasy dans la musique, de Wagner à Led Zeppelin.
Et oui, Led Zeppelin, 1971, The Battle of Evermore. C'était l'album Led Zeppelin 4, le chant, Robert Plant, la guitare, Jimmy Page. C'était La Vie Connectée avec Christine Siméon. Les couleurs du ciel maintenant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
On a rendez-vous avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Peu d'évolution demain dans l'ensemble sur la plupart des régions, avec toujours pour la moitié nord du brouillard, d'évolution à nouveau très lente, voire inexistante, et souvent un ciel beaucoup plus gris que dégagé sur les autres régions, avec des passages de pluie généralement faibles, mais à noter qu'à partir de la nuit prochaine, de fortes averses d'orages vont éclater sur le Languedoc, donnant de fortes quantités de précipitations, en particulier sur le Gard et l'Hérault. Demain, à la mi-journée, ces pluies soutenues, accompagnées de neige à partir de 1200 mètres, vont basculer vers la frontière italienne. Les températures légèrement plus élevées qu'aujourd'hui dans la partie nord, avec 7 à 11 degrés l'après-midi, vont rester stationnaires dans la moitié sud et sur la façade atlantique, avec à nouveau, au lever du jour, des gelées, mais beaucoup plus rares que la veille, sur la moitié nord du pays.
Jean-Michel Golinski de Météo France, il est 19h21. Pas d'humeur vagabonde ce soir en raison de la grève à Radio France. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h avec Léo Téchère.